Bravo à tous et bienvenue à Angle Mort, horaire régulier. Vous étiez bouleversé la semaine passée quand vous avez vu qu'il a manqué l'épisode du jeudi, je le sais. Mais je suis très flatté là de ça. Alors, je ne sais pas comment ça s'est sorti, hein, mais celui que j'ai fait à partir de l'auto à Lévis, c'était spécial. Aujourd'hui, j'ai du jus, pas mal. Je vous parle de toute l'affaire des pensionnats autochtones qui crée un émoi partout, etc. Bon, blablabla. Je veux juste vous faire part de... et là, je ne ferai pas de moi un spécialiste que je ne suis pas. J'essaie de me prononcer sur des affaires sur lesquelles je juge que j'ai un vrai point de vue ou une vraie compétence ou un heureux mélange. Je ne suis pas un historien, je ne suis pas un spécialiste de la question autochtone au Canada, rien de tout ça. Par contre, un truc que vous ne savez peut-être pas, je me suis longtemps intéressé, c'est encore assez vrai, mais moins vrai, mais aux religions. J'ai lu beaucoup de livres sur... beaucoup d'encycliques, par exemple, de Jean-Paul II, entre autres, qui était un docteur, c'est un Polonais, c'était un docteur en théologie. C'est, souvent, les papes, c'est des gens très instruits. François Ier, j'ai pas trop d'idées de son parcours. Mais, donc, en tout cas, il y a eu... puis ça fait longtemps, j'étais comme cégep, université, fin vingtaine, mi-vingtaine. Puis j'ai eu un gros trip de ça, lire la Bible. J'ai déjà fait venir, c'est drôle, je vais parler de ça aussi. J'ai déjà fait entrer deux jeunes mormons chez moi quand je restais chez mes parents à Charlebourg. Qui étaient très sharp d'ailleurs, tu sais, qui paraissaient bien, un gars, une fille, début vingtaine. Ils étaient de mon âge. Puis ils cognent à la porte, salut, nous autres, on se demande si t'es intéressé à ce qu'on jase. Des mormons, puis nous autres, on adhère à ça, puis on pense que c'est intéressant que les autres choses. Puis là, je me suis dit, ben, coudonc, je me dis en arrière. On est allé jaser, tu sais, regarde, on était tous du même âge, puis ils m'ont laissé un livre, je l'ai lu au complet, qui est, si on veut, c'est la Bible des mormons, c'est beaucoup plus petit qu'une Bible normale, parce qu'il n'y a pas d'Ancien Testament. Tu réalises qu'eux autres, ils ont le même Jésus, mais après ça, ils ont un autre parcours, tu sais. Puis je continue à m'intéresser à ça parce que si tu t'intéresses à la philo, ce qui est mon cas, tu t'intéresses inévitablement aux religions, aux croyances. Il y a toute une école qui pense que Jésus n'a pas existé. Moi, longtemps, je pensais que c'était une réalité historique, mais pas du tout. Il n'y a pas de preuve de son existence. Ça fait que tu vois, tu sais, c'est déjà quelque chose. Ça fait que moi, je vois pas plus loin que ça, mais Michel Onfray dit souvent que C'est une réalité, comment il appelle ça? Il appelle ça une thèse mythique, c'est-à-dire que ça fait partie du mythe. Sauf que qu'il existait ou pas, ce qui est intéressant, c'est que ça te rappelle que Jésus n'a pas écrit une ligne. T'sais. C'est Saint Paul, 75 ans plus tard, donc Paul de Tarse, de son nom, qui a commencé à écrire là-dessus puis à décider que c'est lui qui a amené les premiers préceptes, si tu veux, comme quoi le corps, c'est un peu mal. Puis, tu sais, tout le rapport à la sexualité chrétienne, c'est très weird. C'est pas le cas partout. Les bouddhistes, c'est l'inverse. Puis le Kama Sutra oriental, etc., tu sais. Ça fait que, tout ça pour vous dire que ce que je vais vous raconter aujourd'hui, je sais que j'en connais assez pour en parler. C'est des affaires qui sont de base. Alors, après ça, je commencerai pas à rentrer à jouer le gars qui connaît les intentions. Tu sais pourquoi François Ier a dit « On est désolé, c'est épouvantable, mais on s'excuse pas. » Alors que Justin Trudeau lui a demandé que l'Église s'excuse. Puis après, ben juste ça, là, cette dichotomie-là, entre un qui dit « Tu devrais » puis l'autre qui dit « Non », il y a déjà des points d'intérêt là, mais on va pas rentrer là dans... Je vais regarder ça succinct. L'histoire, c'est la suivante, OK? Donc, ils ont retrouvé une espèce de charnier, mais faut du bon Dieu, 215 enfants qui sont enterrés, manifestement, ils ont été tués. Tu sais, c'est pas genre, ils ont pogné la grippe en même temps. Et c'était à l'époque où il y avait ce qu'on appelle les pensionnats autochtones, où est-ce qu'on séparait, entre autres, les enfants de leur mère, etc. Puis bon. Alors, il faut comprendre d'où ça vient. Quand il y a eu la colonisation européenne, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, dans les Antilles, éventuellement en Afrique, ça a toujours été fait, sauf peut-être exception que j'ignore, mais à ma connaissance, toute la colonisation a été faite de la part des Européens. Je ne connais rien du côté asiatique ou Moyen-Orient, là. Il y en a eu partout d'ailleurs, en passant, là, la colonisation, c'est loin d'être juste le fait des Européens blancs. Hein. Ça se faisait partout. La traite des esclaves a eu lieu pendant plus de 1500 ans dans des marchés en Afrique du Nord où est-ce qu'on vendait les gens, on vendait les Africains comme des pommes, là. Fait que là, de ce temps-là, il y a un délire genre, oh mon Dieu, anticolonialiste, comme si ça existait juste, c'est partout, là. C'est dans l'histoire de l'homme, l'esclavagisme, c'est dans l'histoire, mais c'est partout. C'est pas Jojo, mais c'est de même. Et quand, donc, le colonialisme était fait pour des raisons commerciales, que ce soit Jacques Cartier, Christophe Colomb, Cortés au Mexique, name it, c'est des explorateurs qui étaient commandités par les rois de leur, du pays d'où ils venaient, ou même, des fois, un autre roi. C'est arrivé, je pense que Jacques Cartier était commandité par le Portugal alors qu'il était un Italien. Pourquoi? Parce que c'était quasiment l'offre et la demande. C'était comme, hey, j'ai un projet aujourd'hui. Ça serait comme aller devant du venture capital puis dire, moi, j'ai un nouveau projet de logiciel. Puis il y en a un qui dit non, l'autre dit oui. Les dragons, c'était carrément ça, en Europe. Ça fait que tous les pays colonisés, c'était pour des raisons commerciales. Sauf qu'une fois qu'ils s'installaient, il y a peut-être des fois que ça a échoué, hein? Peut-être qu'ils sont allés, puis finalement, ça n'a pas réussi, ils sont partis, on n'a pas entendu parler, ça n'a pas été écrit, ou peu importe. Mais pour toutes les fois où les Portugais sont allés, c'est devenu le Brésil, les Espagnols, Mexique, les Français, les Anglais, Amérique du Nord, les Français en Haïti. Tout ça, c'était pour des raisons commerciales. Mais une fois qu'il est installé, parce que c'était l'époque, parce que c'était l'influence de l'époque, etc., rapidement, le clergé envoyait des congrégations s'installer, les jésuites, les franciscains, etc. Et là, vous allez comprendre toute la base du problème. La doctrine chrétienne de l'époque, c'était que les autochtones, donc on les appelait les Indiens parce que les premiers arrivants d'Europe pensaient qu'ils étaient en Inde, ils cherchaient un chemin pour faire un raccourci plutôt que de contourner l'Afrique. Donc on va les appeler nous autres les autochtones, on est aujourd'hui. Dans la doctrine chrétienne, n'avait pas d'âme. C'était du monde qu'il fallait convertir, mais pas convertir, changer de religion. Il fallait leur donner la religion catholique ou protestante, probablement pour les Anglais, parce que supposément, c'était des... Rappelez-vous qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on les appelait aussi les sauvages. On appelait, à l'époque de mes parents, là, c'était usuel d'appeler dans l'histoire les sauvages. Tu sais, c'était des sauvages. Donc, si c'était des sauvages, c'était, dans la réflexion chrétienne, des gens qui n'avaient pas d'âme, il fallait leur en donner une. Toute l'histoire des pensions autochtones s'inscrit dans cette donnée de base-là, dans cet élément fondateur, si tu veux, du lien entre le catholicisme et la chrétienté qui s'installait dans des nouvelles contrées et les autochtones, c'est-à-dire les résidents de la place. C'était pas 100% des êtres humains pour les religieux du temps. Maintenant, aujourd'hui, vous pouvez dire c'est épouvantable. Si vous aviez été à cette époque-là, vous auriez adhéré exactement à la même affaire. Donc, voyez le lien? C'est que si aujourd'hui, François Ier s'excuse, il remet en question tout le dogme qui était à la base de ce pourquoi on a fait la suite, puis les dominos sont mis à tomber un après l'autre. Parce que l'expression qu'on retrouve dans les livres d'histoire par rapport aux pensionnats autochtones, etc., c'est qu'il fallait extirper l'Indien de l'individu. Il fallait enlever ce qu'il y avait d'Indien, il fallait enlever ce qu'il y avait de traditionnel pour qu'il devienne un Européen, comprends-tu? On était loin, là, de exemple, l'intégration ou l'assimilation, qui sont des théories par rapport à l'immigration. Est-ce qu'il faut que les gens s'assimilent, deviennent des Québécois 100%? Est-ce qu'il faut qu'ils s'intègrent, c'est-à-dire qu'ils suivent les lois, les règlements, mais ils peuvent rester avec leur culture, etc.? En France, il n'y a pas une journée où c'est pas une discussion, tu sais. Là, c'était pas le sujet, là. C'était ni l'assimilation, ni l'intégration. C'était, il faut le vider de ce qu'il y a d'autochtone. Il ne faut plus qu'il reste de traces de ça. Donc, voyez-vous jusqu'où ça pouvait aller, cette idée-là? Ça pouvait aller jusqu'à dire, ben, il y a des enfants là-dedans que, dans un monde idéal, ils ne vont pas grandir et devenir de nouveaux autochtones. Et là, ça, c'est la version que je vous dis par rapport à ce que moi, je connais. Mais il pourrait y avoir d'autres historiens qui arriveraient avec des subtilités en disant, c'est pas exactement ça, etc. Mais au final... La seule affaire que je veux vous transmettre comme idée que je sais qui est à la base de tout ça, c'est l'idée que l'Autochtone qu'on rencontre n'a pas d'âme. Il est incapable, il n'est pas porteur d'une religion lui-même. Ah, il y a des superstitions, il croit au Dieu soleil, il fait des offrandes, etc. Pour eux autres, c'était pas pareil. Eux autres avaient des croyances qui étaient fiables. Ils étaient tous, ou presque, à ma connaissance, d'allégeance chrétienne. Après ça, bon, selon... C'est quand ils arrivaient en Amérique latine, puis qu'ils voyaient les Aztèques ou les Incas, je sais pas qui a croisé qui, là, mais ce qu'on voit dans des films comme Apocalypto, par exemple, ou dans The Mission, dans La Mission, tu vois que ils rencontrent des tribus là, d'autochtones de la place, tu sais, qui n'avaient jamais vu quelqu'un blanc de leur vie, qui ne savaient pas que ça existait. Puis bon, ben, ces gens-là, pour les congrégations qui arrivaient, etc., étaient à peu près des animaux. Grosso modo, ils étaient considérés comme des animaux qui étaient de forme humaine. Puis j'exagère pas, tu sais. Fait que, voyez-vous que quand vous partez de là, puis quand vous regardez c'était quoi les intentions, etc., vous dites, c'est quelque chose qui, en date d'aujourd'hui, serait complètement inadmissible, puis ça passerait même pas dans la tête de l'Église d'aujourd'hui, de dire, hey, on a découvert des nouveaux individus sur une île dans le coin des îles Fidji, et puis ils ont pas d'âme, voilà, c'est un peu des animaux. Tu sais, mais même le pape ou la doctrine chrétienne actuelle, irait pas là. C'est, ben oui, c'est des humains, peut-être qu'ils ont pas de religion, ils en ont une ou c'est une autre, c'est tout. Il y aurait pas de combat. Après ça, peut-être que chacun voudrait qu'ils deviennent avec leur religion à eux autres, puis si c'est des musulmans qui les rencontrent, ils vont vouloir qu'ils adhèrent à l'islam ou je ne sais quoi. Mais je pense pas que dans la chrétienté d'aujourd'hui, si ces faits-là revenaient, c'est-à-dire on découvre une nouvelle population, il n'y aurait pas de chrétien nulle part dans le clergé ou autre qui dirait « Ah, eux autres n'ont pas d'âme, c'est des animaux. » Mais à l'époque, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'était la croyance, c'était de même. Puis c'est surtout là qu'on voit, okay, si on sort de ça, on voit à quel point, quand tu as une croyance qui ne se prouve pas, ben, elle peut se répandre comme une traînée de poudre. À partir du moment où tu n'es pas obligé de prouver rien, ben, tout le monde se met à adhérer à ça en disant ben, « Mon père était de même, ma mère croyait à ça. Puis pourquoi pas moi? » Mais ça ne se prouve pas. Mais ça prouve aussi le dommage que ça peut faire. Ça fait qu'en tout cas, c'était juste l'éclairage que je voulais donner aujourd'hui sur le fait que tout à coup, parce que j'ai pas vu ça ailleurs, personne a comme voulu dire « Ouais, mais pourquoi il s'excuse pas, il doit avoir une raison? » Ben, la raison que moi je connais, c'est celle que je vous donne là. Puis c'est pas le propre d'une religion de se moderniser. Une religion qui se modernise, c'est une religion qui meurt. Les églises se sont vidées quand il y a eu... tout ce qu'ils appelaient Vatican I, Vatican II, qui étaient justement des mises à jour, où on a décidé qu'on a arrêté de faire l'avocat du diable, par exemple. L'expression l'avocat du diable, c'est quand tu canonises quelqu'un ou quand pour qu'il devienne un saint, comme Mère Teresa, mettons, ben, il y avait un avocat qui essayait, lui, de prouver qu'elle n'avait pas fait des miracles. Ça vient de là, l'avocat du diable. Bon, c'est quelque chose qui, assez récemment, il y a quelques dizaines d'années, a été évincé. Là. C'est plus le processus. Puis depuis ce temps-là, d'ailleurs, les saints-ci et saints-ça, ils ont explosé. Tu sais, il y a de l'économie là-dedans comme dans d'autres choses. Ça fait qu'en tout cas, tout ça pour vous dire que, évidemment que si le pape s'excusait, t'aurais une espèce de réconciliation tellement plus facile à faire. T'aurais vraiment comme, tu sais, une espèce de, bon, OK, on va de l'avant, il y a eu des fautes qui ont été faites. C'était avec les croyances de l'époque, mais il s'excuse pas parce qu'à quelque part, c'est comme dire, ben, coudonc, nous autres, c'était La croyance en Dieu est toujours comme au-dessus de l'erreur possible. C'est un peu ça. Là. Mais là, ça, c'est ma lecture personnelle. Tu sais. Mais il reste que quand tu comprends comment les religions fonctionnent, qu'à quelque part, c'est pas le temps de dire « Ah, on négocie, puis c'est pas de la politique. » C'est justement ça le point. C'est pas de la politique. C'est pas pour gagner l'appui des gens, je vais aller m'excuser. C'est non, le pape, lui, il est gardien d'une certaine façon de voir, qui est plus conservatrice qu'autre chose. Ça fait qu'il est désolé de ce qui est arrivé, mais il y a de la misère à pouvoir dire. En un mot, la différence entre... tu sais, quand on dit « je te blâme de quelque chose », parce que quand on s'excuse, il y a deux raisons. C'est qu'on a fait du tort à quelqu'un ou on a eu tort. C'est le même mot, mais c'est pas la même signification. Ça, tu sais, si quelqu'un, tu m'as braillé parce que tu lui fais un commentaire, tu peux t'excuser de l'avoir bouleversé puis de l'avoir peiné. Mais ça se peut que ton commentaire était 100% vrai. C'est que t'as pas à t'excuser parce que t'as eu tort. Comprenez-vous? Fait qu'on est encore dans les mots. On est encore dans les mots où est-ce que le même mot, c'est-à-dire s'excuser, c'est que lui pourrait dire « Je m'excuse, je trouve ça épouvantable ce que vous avez vécu. Je suis désolé de tout ce qui est arrivé, mais j'avais pas tort à l'époque de faire ça parce que nos croyances étaient à cet effet-là. Moi, ce que je veux montrer à tout le monde, c'est à quel point quand tu crois des affaires qui se prouvent pas, ben, surprends-toi pas qu'il arrive tout et son contraire. Voilà. À demain.